bien prédit. Où tout est mort et presque rien n'est dit. J'ai regardé si loin que je n'ai rien compris. Fallait bien un jour que j'en sorte à tout prix. Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Demain, je ne perdrai plus mes nuits. On cherche toujours quelques lettres à graver. D'abord dans son cœur, puis sur un vieux pavé. J'ai regardé si loin que je n'ai rien trouvé. Au début d'un refrain, le matin s'est levé. Aujourd'hui, bonjour à la vie. Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Demain, je ne perdrai plus mes nuits. Il est trop tard pour comprendre. Il fait trop noir pour attendre.
Harmonium, aujourd'hui je dis bonjour. Bonjour.
Et on apprend aujourd'hui que le Cirque Éloise plonge dans l'univers de Fiori, un tout nouveau spectacle acrobatique qui portera sur l'œuvre du chanteur d'harmonium. Fiori en rêvait depuis 30 ans. Pour la première fois, la musique d'harmonium et d'autres projets de Fiori sera transposée sur scène dans un spectacle de cirque, a appris le Journal de Montréal, intitulé « Serge Fiori, seul, ensemble ». La 16e création du Cirque Éloise sera lancée le printemps prochain. C'est un grand moment, ça fait longtemps que je veux vivre ça. Rencontré dans les bureaux du Cirque Éloise à Montréal, Serge Fiori peinait à cacher son excitation hier après-midi. L'artiste de 66 ans s'est demandé durant presque toute sa carrière pourquoi son œuvre n'avait pas été adaptée sur scène. « Je n'ai jamais reçu d'appel pour ça », dit-il, Pourtant, j'ai toujours trouvé que c'était une musique qui se prêtait bien à ça. Il y a un an, le producteur Serge Grimaud a rencontré par hasard le fondateur du Cirque Éloise, Jeannot Pinchot. Je me souviens que Jeannot m'avait dit qu'il rêvait de faire un spectacle où la musique ne serait plus un accessoire, mais la raison d'être d'un spectacle, dit le producteur. Rapidement, Grimaud s'est rappelé que Fiori lui avait souvent dit qu'il voulait marier son univers à celui du cirque. La création du Cirque Éloise sera toutefois différente de celle du Cirque du Soleil, car Fiori s'implique directement dans la conception musicale. Le titre du spectacle, Seul Ensemble, fait référence aux paroles de la pièce Le Corridor, les premières lumières sur l'album Leptade d'Harmonium. Parce qu'il se jugeait incapable de couper quoi que ce soit dans ses pièces, Serge Fiori ne souhaitait pas travailler seul sur la musique du spectacle. Il a ainsi fait appel à Louis-Jean Cormier. « Louis-Jean et moi, on est de la même souche, dit-il. On a le même désir de perfection. » En compagnie d'Alex McMahon, Fiori et Cormier ont déjà travaillé sur 6 chansons et ils devraient en faire 16 ou 17 au total pour le spectacle qui sera lancé en mars prochain. Claude Mégot-Lemay a traversé des années très difficiles après avoir été remercié par l'équipe de Céline Dion en 2015. 3 ans plus tard, en entrevue au journal, le directeur musical dit avoir tourné la page. « Je suis un homme en paix et heureux. La période sombre est terminée. » Épaulé par Manouk, son épouse et leurs 2 jeunes enfants, le multi-instrumentiste a chassé cette torpeur au fil des rencontres avec Frédéric Arnould, l'auteur de « Mégot ». Le livre a été une thérapie. Je me suis mis à bien aller au moment où j'ai évacué ce que j'avais à dire. Mégot, point de suspension, aux éditions Québec Amérique, est présentement offert en librairie. Tristesse lumineuse, signée Safia Nolin, l'artiste présentait son tout nouveau spectacle hier soir à Montréal et elle a envoûté le théâtre Outremont avec les pièces mélancoliques de son nouvel opus Dans le noir lors de sa rentrée montréalaise hier soir. Dans le devoir avec des croissants de soleil, quand Madame Renaud, la plus grande chanteuse, nous convie chez un être humain appelé Ginette Raynaud, R-A-Y-N-A-U-L-T. C'est l'article de Sylvain Cormier dans le devoir d'aujourd'hui. Entrée par la porte du garage, je traverse un dédale de pièces très encombrées. Puis un grand hall avec un escalier où les tableaux signés Ginette Raynaud attendent le visiteur à chaque marche pour y aboutir à la salle à manger. C'est là que ça se passe, que la rencontre de presse a lieu. D'un côté de la grande table, nous sommes une bonne vingtaine de tous les médias. On dirait une messe, chuchote quelqu'un. Les rangées de sièges, les 2 énormes cierges, les anges massifs, l'un en pierre, l'autre en plâtre, c'est une petite église. Les signes du zodiaque en relief dans les portes détonnent un peu, ou pas du tout. La châtelaine s'amène sans chichi, s'installe de l'autre côté de la table, ordi ouvert entre elle et nous. Ginette Raynaud commence par constater que personne n'a rien mangé, que la table est encore pleine de brioches, fruits, gâteaux et petits pains au chocolat. « Va-t-il falloir que je mange tout ça? » Sacrée Ginette. Rigolade. Il y a aussi des croissants, comme dans la chanson « Des croissants de soleil ». Elle en rajoute « Bon ben, on va ouvrir le testament. » La petite assemblée s'esclave. À jamais, l'album qu'elle nous présente en ce jeudi matin chez elle à Boucherville se veut en effet testamentaire. Son « testament en chanson », précise-t-elle. Ce qui ne signifie pas que ce sera le dernier, mais ça pourrait l'être. Cela étant, une fois tout en règle chez le notaire, on peut vivre des décennies. Dans sa famille, les femmes dépassent les 90 ans. On est loin de la chapelle ardente. Mais tout ce que je le fais en me disant que c'est peut-être la dernière fois. Elle nous regarde dans les yeux. Je pense à la mort tous les jours. Vite, elle digresse, parle de la plus belle note que chaque chanteur, chaque chanteuse peut pousser. Il paraît que moi, c'est un si bémol. Je pourrais mourir après cette note-là. Ce serait comme un orgasme vocal. Sacrée Ginette. Magnifique Ginette, rayonnante et bronzée. longs cheveux sur les épaules. C'est pas trop mon genre de décrire les cheveux des chanteuses, mais elle en est très fière. Quand j'étais enfant, j'avais les cheveux aux fesses, mais j'ai eu des poux. Ma mère me mettait du thé des bois. Un jour, elle m'a dit que mes cheveux étaient brûlés, fait qu'elle me les a coupés. J'avais tellement honte. Le lendemain, j'étais chez le barbier. Je lui ai dit « Faites-moi la coupe Elvis ». Elle s'est jurée qu'elle les laisserait pousser un jour. Toute ma féminité est dans mes cheveux longs. Et l'album? Oui, l'album. Chanson après chanson, Ginette Renaud anime la séance d'écoute. Un couplet, un refrain, stop. Commentaire, anecdote, évocation, blague à la Ginette, citation de Simone Signoret, Lee Strasberg, Charles Aznavour. Pendant l'extrait joué, elle chante par-dessus sa propre voix et continue souvent a cappella une fois l'enregistrement interrompu. Quand elle pousse son si bémol, son visage s'illumine et son siège de bureau sur roulette recule. Et nous nous enfonçons dans nos sièges. Une grande bourrasque secoue la salle à manger, fait trembler le grand chandelier doré. Des 13 titres de l'album, c'est mon chiffre chanceux, au moins 13 sont marquants. Certains le sont doublement. Ici, un duo avec Linda Lemay, là, un texte de Grand Corps Malade intitulé « Un être humain ». Le choix des textes est essentiel. Ginette en souligne les lignes fortes, justifie le propos comme si elle justifiait sa vie. Pas seulement sa vie d'artiste. Ginette Renaud chante aussi. Il n'y a pas juste la Renaud là-dedans. Il y a aussi La Grosse, littéralement une chanson intitulée La Grosse. Je me suis toujours demandé jusqu'à quel point une chanteuse pouvait se dévoiler ou chanter ce qu'elle vit, écrit-elle dans le texte qui jouxte les paroles de la chanson. J'avais cette envie folle d'une chanson qui s'appellerait La Grosse. Je voulais même que mon album s'appelle La Grosse, point d'exclamation. Avoir pu, elle aurait été encore plus loin, lance-t-elle, contente de son idée. Je voulais avoir un billboard pour annoncer l'album qui dirait « La Grosse s'en vient en ville », rire un peu gêné. Il y a toujours des moments dans chaque rencontre avec Ginette où elle va où personne n'oserait aller. L'album porte le nom de la seule chanson dont elle signe les paroles, « À jamais ». C'est la dernière de l'album et certainement la plus testamentaire. Alors les paroles, « J'ai chanté mes chansons, mes amours, mes passions. Ce soir, je veux chanter comme je n'ai jamais chanté, pour aplanir mes peurs. J'ai eu peur tant de fois, peur de perdre la raison. Que ce soit, je veux chanter. Je veux chanter mon nom. Son nom au complet, peut-on lire, en signature du livret, Ginette Renaud, Renaud. J'ai 72 ans. Je commence à me connaître et je commence à aimer la chanteuse que je suis devenue. À jamais, donc, par Ginette Renaud, un album attendu par beaucoup, beaucoup de personnes.
Le ciel tisse une couverture en laine. L'été prépare ses quartiers d'hiver. Mais n'aie pas peur de la froidure, Hélène. Je te réchaufferai, je te réchaufferai. Allons rêver sur les bords de la Seine. S'il reste encore quelques petits coins verts. Et si le fond de l'air est frais, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. En passant mon bras autour de ton épaule, et si malgré mon bras la brise travaille à bien jouer son rôle, tu prendras mon chandail. Si le temps, malgré mon chandail de laine, venait troubler le calme de ta chair, en te serrant tout contre moi, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. La, 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 la. Mais si le vent soufflait à perdre haleine, nous irions vite abriter notre amour. Et blotti dans notre grenier, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. Je fermerai fenêtres et persiennes, je bouclerai la porte à double tour. Et en faisant une flambée, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. Thank you. en offrant au feu tout le bois qu'il réclame. Et s'il manque du bois, je mettrai aussi nos meubles dans les flammes, ne gardant que le lit. Mais si le froid contre nous se déchaîne, et si le feu n'était d'aucun secours, par la chaleur de mon amour, Hélène, je te réchaufferai. Le ciel tisse une couverture en laine, le soleil fuit lorsque l'hiver paraît. Mais n'aie pas peur de la froidure, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai.
Je te réchaufferai, Charles Aznavour.
Oui, la voix chaude d'Aznavour, ça fait toujours du bien de l'entendre, particulièrement à l'automne, Aznavour dont on s'ennuie déjà. Je me voyais déjà, c'est le titre d'un article que propose Christian Rioux dans Le Devoir d'aujourd'hui. Aznavour à l'aéroport dès la descente de l'avion, Aznavour dans les haut-parleurs du taxi qui vous mène au centre-ville, Aznavour sur la petite place du même nom où se recueillaient ses fans de tous âges, Aznavour sur la place de l'Opéra, où les Kidam venaient déposer des fleurs. Aznavour au petit restaurant caché dans les jardins qui ceinturent le centre-ville. Avouons-le, la semaine dernière, à Erevan, il y avait de quoi faire une indigestion de l'auteur de la bohème. On a vanté l'extraordinaire carrière de ce fils d'immigrant, le succès international de cet incomparable représentant de la chanson française, sa maîtrise de la langue, ses indéniables talents de ce comédien. Mais s'est-on interrogé sur les raisons du succès de Shanur Varinag Aznavourian, né le 22 mai 1924, dans une maternité pour indigents de Saint-Germain-des-Prés? Ce n'est certes ni la fortune ni la noblesse de naissance. Ce n'est pas non plus l'éducation puisqu'il quitta l'école à la fin du primaire. Ce n'est pas non plus la chance puisque le succès ne lui sourit qu'une fois atteinte la quarantaine. En cette époque où l'intégration des immigrants défraie la chronique comme jamais, il n'est pas inutile de souligner que ce fils de réfugié arménien a dû sa réussite à sa parfaite intégration et à sa maîtrise de tous les codes de la société française. Jusqu'à franciser son nom et à devenir un archétype du séducteur français, Aznavour a raconté 100 fois son combat pour maîtriser la langue, noter de nouveaux mots, découvrir des postures, acquérir la culture. À Cocteau, avec humilité, il demanda ce qu'il devait lire. Avec Piaf, dont il fut même le chauffeur, il apprit sans cesse. Son biographe, non autorisé, Robert Belleret, décrit un fin connaisseur de l'argot parisien. Dans ses 2 chefs-d'œuvre, Tirés sur le pianiste et Un taxi pour Tobrouk, Aznavour devint plus français que français. Dans ce dernier, sur les mots savoureux de Michel Audiard, il donne d'ailleurs la réplique à un autre archétype de l'homme français de cette époque, Lino Ventura, pourtant d'origine italienne. Elle est là, la leçon d'Aznavour. Devenir français par tous les moyens sans jamais s'enfermer dans un ghetto. Jamais Aznavour n'a joué la corde ethnique ni exploité son ascendance arménienne. Beaucoup de Français ne la découvriront d'ailleurs qu'en 1988 à cause de son implication en faveur des victimes du tremblement de terre d'Arménie. Lui-même se revendiquait totalement français, avec, disait-il, des racines arméniennes. Ce qui ne veut pas dire qu'à travers son œuvre, la chanson française ne s'est pas enrichie d'une touche d'âme slave et du Caucase. Au contraire, mais Aznavour n'était pas du genre à se promener sur scène avec une croix arménienne dans le cou. En regardant défiler dans les rues de Montréal le 7 octobre dernier quelques milliers de manifestants dits antiracistes avec leurs voiles islamiques et leurs pancartes en anglais, je me disais que ceux-ci auraient eu beaucoup à apprendre du grand Charles, écrit Christian Rioux. De sa détermination à devenir français et à s'intégrer dans une société où il ne l'a pourtant pas eu facile. De son admiration sans borne pour cette immense culture que la France lui offrait en partage. De son amour de cette langue dont il a appris à maîtriser parfaitement les accents. Pas qu'Aznavour n'ait pas eu des raisons de se plaindre. On en a tous. Heureusement, l'époque n'était pas à l'étalage des souffrances. Car loin du sens galvaudé que l'on accorde aujourd'hui aux mots, ses parents n'étaient-ils pas de vrais survivants, eux qui, fuyant Constantinople, avaient échappé au premier génocide du XXe siècle qui décima les 2/3 d'un peuple millénaire? un peuple qui, en passant, a traîné son pays sur son dos pendant des siècles avant de le voir renaître enfin en 1991, les Québécois pourraient en prendre note. L'intégration n'est jamais chose facile. On sait qu'à Marseille, où arrivèrent la plupart des Arméniens, il y eut des frictions avec la population locale dans les années 1930. Quoi de plus normal? Pourtant, en 70 ans, les Arméniens se sont parfaitement intégrés à la société française et fondus dans les classes moyennes. Ils sont artisans et commerçants, créateurs d'entreprises, tricot Manoukian, chaussures Kilian, lunettes Alan Mikli, mais aussi ouvriers qualifiés, techniciens, employés, fonctionnaires, enseignants, journalistes, ingénieurs, chercheurs, écrit l'historienne Anaïd Terminassian. La vie d'Aznavour est un désaveu de tous ceux et celles qui veulent enfermer les immigrants dans des communautés ethniques, raciales ou religieuses. Elle est une invitation pour ces derniers à mettre de côté tout ce qui pourrait les séparer de la société qui les accueille, à mettre bas les pancartes et l'amertume, à délaisser les discours extrémistes qui les instrumentalisent au profit de l'apartheid culturel. Elle est une invitation à devenir totalement français, britannique, québécois, allemand, et surtout à s'emparer de la langue et de la culture que leur offrent nos sociétés. En haut de l'affiche, ce fils d'Arménie se voyait français, totalement français, pour son plus grand bonheur et pour le nôtre. Suggestion sortie dans la chronique Sortir dans le Journal de Montréal. Françoise Sullivan au MAC jusqu'au 20 janvier. On aura une occasion unique de voir une exposition rétrospective des œuvres de Françoise Sullivan au Musée d'art contemporain. Elle a co-signé le manifeste du refus global, contribué au texte fondateur de la danse contemporaine. Elle s'est consacrée un temps à la sculpture en acier et en plexiglas. Puis, elle a fait un retour à la peinture et a enseigné à l'Université Concordia jusqu'en 2009. En 2005, elle a remporté le prix du gouverneur général en arts visuels. Assurément, c'est à ne pas manquer. C'est au MAC, donc le Musée d'art contemporain, tout à côté de la Place des Arts. Vous aimez voyager, alors pour planifier votre prochain séjour à l'étranger, vous pourrez vous rendre au Salon international Tourisme Voyage à la Place Bonaventure. C'est aujourd'hui de 11h à 21h, donc c'est ouvert. Samedi, dimanche de 10h à 18h, tarifs divers. Et si vous préférez les maisons, alors optez pour le Stade olympique aujourd'hui et demain de 10h à 21h et dimanche de 10h à 17h, tarifs divers. Pour plus d'informations, vous allez sur les sites internet expohabitationautomne.ca et salontourismevoyage.com. Le festival vegan demain de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h, on pourra se rendre au Festival vegan de Montréal. Ça se passe au Palais des Congrès. Il y aura des ateliers, des conférences, des démonstrations culinaires et même un yogathlon. C'est peut-être le moment de s'initier à une alimentation écologique. Et l'entrée est gratuite. Aussi, on suggère un spectacle, de bons spectacles qui sont souvent présentés à l'entrepôt de la Chine. Demain, on pourra voir Yves Pépeltier à 20h. Vendredi prochain, le 26, à 20h toujours, ce sera au tour de Michel Pagliaro. Ludovic Bourgeois présentera le sien le 23 novembre et les Denis Drolet le 30 novembre. Et c'est la foire contemporaine de Saint-Lambert. Foire d'art contemporain de Saint-Lambert jusqu'à dimanche au 80 rue Hopper à Saint-Lambert. On pourra voir les œuvres de 37 artistes émergents aujourd'hui de 16h à 21h, demain et dimanche de 10h à 17h. We'll be right back. Molson gardera les briques et l'horloge. La future brasserie Molson de Longueuil ne ressemblera pas vraiment à celle de Montréal, mais elle reprendra tout de même ses briques rouges et la célèbre horloge qui trône sur le vénérable bâtiment de la métropole depuis des décennies. C'est ce qu'on peut voir sur les illustrations que Molson Coors a remises à la ville de Longueuil pour faire approuver les plans de la nouvelle brasserie de 138 millions de dollars. Selon la ville de Longueuil, la façade de la future brasserie fait l'objet d'un traitement soigné qui permet de dégager une image de prestige. L'usine sera située près de l'aéroport de Saint-Hubert et de l'Agence spatiale canadienne. Le brasseur vise l'obtention de la certification environnementale LEED. On dit-tu LEED ou LEED? LEED, L-E-E-D, pour la nouvelle brasserie grâce notamment à des mesures de réduction des îlots de chaleur et de récupération de l'eau pluviale. L'entrepreneur Pomerleau sera le maître d'œuvre des travaux. Et pour terminer, le juge François Huot a annoncé vendredi avoir besoin de plus de temps pour décider de la peine du meurtrier Alexandre Bissonnette, qui est passible de la plus longue peine de l'histoire de la justice moderne au Canada. Pas de peine avant 2019 pour lui. C'est tout pour moi. Bon week-end à tous. Ici Hélène Denis. On se retrouve lundi. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. À très bientôt.
Bien le bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. C'est l'édition du vendredi 19 octobre 2018. Alors, c'est Hélène Bédard qui vous parle. Et avec moi en studio, devinez, j'ai Francine Forget avec moi. Bonjour Francine.
Quelle devinette! Bonjour Hélène, ça me fait bien plaisir.
Le froid m'emporte, le froid
oui.
m'emporte.
Oui! Avez-vous goût de prendre un petit cocktail?
Pas ce matin, trop
pas
tôt.
Pas ce matin, trop tôt. Tôt. Ben, en tout cas, on va quand même au moins le humer. Et oui. avez-vous un petit creux, un petit risotto, ça vous dirait quelque chose?
Ah, ça, c'est une nourriture de confort d'automne, effectivement. Oui. Ça, c'était une belle idée oui. pour ce soir. Ouais.
Alors donc, dans cette première partie, je vous dirais, joindre la technologie à l'alimentaire et vous parler cocktail, risotto, et si on a le tas d'une cape d'invisibilité comme dans Harry Potter, sinon ce sera en deuxième partie d'émission.
Excellent menu! Merci beaucoup! Moi, de mon côté, eh bien, je vais vous parler de, justement, si on parle de bouffe, je vais vous suggérer de quoi manger pour vivre plus vieux. Alors, peut-être qu'on a là quelques recettes. Et je vais vous parler aussi de notre cerveau, comment le maintenir en santé, peut-être bien avec l'alimentation, peut-être même sûrement. Et ensuite, je vais vous parler du facteur. Qu'est-ce que fait le facteur en France? Je vous reviens là-dessus dans un petit moment. Alors, nous revoilà. Alors, je laisse tout de suite Francine à son menu.
Ah oui, le cocktail, finalement, il vous intéresse.
Eh oui!
Bon, alors, des cocktails en libre-service. Étienne Plamondon et Mont a fait un grand dossier dans Québec Science de novembre 2018, des technos qui étonnent et détonnent. 15 secondes, c'est le temps qui s'écoule entre la commande d'un cocktail sur un écran tactile et sa sortie d'une machine distributrice imaginé par Bright 4. Le barman automatisé Bright 4 Bar est tout droit sorti de la tête de 5 étudiants de l'École de technologie supérieure de Montréal qui couraient les festivals et trouvaient dommage d'avoir à patienter dans de longues files pour commander un gin tonic ou un mojito. En 2015, ils proposent leur solution dans un cours d'introduction à l'entrepreneuriat et leur professeur Luc Giguère leur suggère d'aller au bout de leur idée. C'est un produit qui n'existait pas en libre-service, souligne Gabriel Tétrault, qui est le président de Bright 4. Il se vendait de petites distributrices de cocktails, mais pour s'en servir à domicile ou pour aider le barman dans ses tâches. L'équipe fabrique d'abord un prototype avec une structure en bois dans le garage des parents de l'étudiant, Ah, ça ressemble à une histoire dont on a déjà entendu parler, ça. Vous vous rappelez sûrement de Steve Jobs, Apple. Situé dans une ferme laitière avec de l'équipement et des matériaux à portée de main. Les contraintes, s'avèrent nombreuses, notamment du côté du respect de la réglementation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. En plus de concevoir tous les circuits électroniques et électriques, les jeunes ingénieurs mettent au point un système pour automatiser l'ensemble des activités de la machine de façon à livrer le cocktail en un éclair. En 2016, ils sont fin prêts à offrir leurs services aux organisateurs d'activités et la réponse est bonne. Leur distributrice sera à l'œuvre dans une vingtaine de manifestations cette année-là. Puis, la jeune pousse s'adjoint en 2017 les services du créateur de cocktails Antoine Galdès pour affiner ses recettes. Une deuxième version du Barmain automatisé prépare des boissons dans une dizaine de rencontres de plus grande envergure, comme le Forum sur la créativité C2 Montréal. L'entreprise de 6 employés prévoit lancer au début de l'année 2019 une nouvelle mouture de sa machine dont la conception est presque terminée et déposer une demande de brevet. Nommée Bright for Bar, elle servira cocktails et bières et sera vendue directement à des bars et des hôtels. Pour continuer à proposer ses services dans le secteur événementiel, la compagnie en démarrage prépare néanmoins un plus petit appareil, le Bright for Cocktails, dont la gestion du verre et de la glace restera à l'extérieur de la machine. Les ambitions de l'équipe vont maintenant au-delà de la production de cocktails automatisés, d'où le changement de nom de l'entreprise, connu avant comme Spirit Event. Après un an et demi passé à l'accélérateur Centec de l'École de technologie supérieure, Bright Four a déménagé au début de l'année 2018 dans les locaux de Connect & Go, une société spécialisée dans les objets connectés pour l'accès à certains lieux et le paiement de biens et services. Alors Hélène, en attendant le cocktail en libre service, je vous rappelle que ce dossier est dans Québec Science de novembre 2018.
Bien hâte d'essayer ça, moi. Bien hâte.
Eh bien, moi, je vais vous parler de... Est-ce que manger un peu moins permettrait de vivre plus vieux et en meilleure santé? Des études menées chez l'humain montrent qu'un régime réduit en calories augmenterait sa longévité. C'est un collectif d'auteurs, Fabien Pifferi, Fabienne Ojard et Jérémy Terrien, dans The Conversation de juin 2018. Manger moins, paraît-il, pourrait nous faire vivre plus vieux et en meilleure santé. Il s'agit seulement, pour l'instant, d'une piste de recherche. Mais la restriction calorique chronique consiste dans son principe à manger une ration alimentaire réduite, mais équilibrée à partir de l'âge adulte, et cela tout au long de son existence. Voyons voir comment ça s'applique. Cette étude explore le mécanisme biologique qui permettrait d'expliquer les effets bénéfiques sur la santé. Pendant 2 ans, 34 des 53 personnes incluses dans l'étude ont diminué leur apport calorique d'environ 15 %. Elles ont perdu en moyenne 9 kilos. C'est pas rien. L'étude montre que la réduction de 15 % de cet apport calorique entraîne un ralentissement du métabolisme et également une diminution de production des radicaux libres. Vous savez, les radicaux libres, ce sont les cellules qui sont responsables du facteur de vieillissement. Bonne nouvelle! Ces résultats soutiennent 2 théories. La première, c'est que nous vivons d'autant plus vieux qu'on a une activité métabolique plus faible en rapport avec, évidemment, la corpulence que nous avons. La seconde, c'est selon laquelle les organismes vieillissent en raison de la multiplication cellulaire liée à l'accumulation de ces fameux radicaux libres dans les cellules. Alors, les résultats de l'étude américaine démontrent donc un ralentissement significatif des processus décrits dans ces 2 théories après seulement 2 ans de restriction calorique. En ce qui concerne l'étude américaine, toujours la même, les données montrent qu'au début de l'expérience, les 2 groupes présentaient un indice de masse corporelle, l'IMC qu'on appelle, supérieur à 25, ce qui correspond à un surpoids. Il semble donc logique qu'une restriction calorique entraîne des effets bénéfiques sur certains paramètres physiologiques, puisqu'un des premiers effets observés
est donc 1. La baisse de poids, faisant passer les individus du groupe restreint en calories à un IMC normal, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Toutes ces études arrivent donc à la même conclusion. Un rapport calorique trop élevé est donc délétère pour la longévité. La réduction du nombre de calories affecte deux paramètres clés du vieillissement, le métabolisme énergétique et la production des radicaux libres. Ne pas oublier, ce sont ces cellules qui nous font vieillir. Comme l'application d'une restriction calorique chez l'humain semble difficile à concevoir de manière généralisée dans nos sociétés modernes, et surtout avec tous les repas minutes et les restos rapides, des études sont en cours maintenant pour identifier des molécules, imaginez, des molécules qui pourraient mimer certains effets et certains bienfaits de la restriction calorique, sans avoir à modifier nos pratiques alimentaires. Un dossier à suivre. Alors, c'était un collectif, Fabien Pifféry, Fabienne Augard et Jérémy Thérien, dans The Conversation, juin 2018.
Chantait une journée parfaite.
Et c'est peut-être notre journée parfaite. Alors, nous voici de retour. Je vais tout de suite donner la parole. Je suis curieuse de voir le risotto de Francine. À toi, Francine.
Oh bien, oui, vous avez bien raison, parce que je sais que vous aimez beaucoup le risotto.
Beaucoup.
Beaucoup, beaucoup. Et vous allez voir que c'est pas mal étonnant, cette invention. Le robot qui fait du risotto. Alors, se jugeant mauvais cuisinier, Gunnar Grass a conçu un robot qui lui préparerait de meilleurs repas. Ensemble, ils s'apprêtent à conquérir les aires de restauration. Lorsque Gunnar Grass découvre les appareils de cuisine multifonction qui peuvent réaliser jusqu'à une douzaine de tâches comme couper, mélanger et cuire des aliments, il trouve une béquille pour compenser ses faibles talents de cuistot. En revanche, il doit rester tout près de ses appareils pour mettre les bons ingrédients au bon moment. Pourquoi pas pousser l'idée plus loin et concevoir un système d'approvisionnement autour de ses instruments? C'est demandé cet Allemand d'origine et Montréalais d'adoption qui adore bricoler des gadgets dans ses temps libres. J'imaginais depuis le travail commander à la machine un risotto aux fruits de mer qui serait prêt à mon retour à la maison. Qu'en dites-vous, Hélène? Risotto, fruits de mer après une longue journée de travail.
Oui, surtout que s'il peut faire frisson dehors, ça serait encore plus délicieux.
Alors voilà, écoutez la suite.
Oui.
L'ingénieur du dimanche, il a une formation en finance, met alors au point un bras robotisé contrôlé par ordinateur qui saisit les ingrédients dans des armoires et un réfrigérateur pour les déposer dans un plat commun. J'ai réalisé que cette technologie fonctionnerait et serait capable de produire des plats de qualité d'un restaurant, raconte-t-il. Actuellement aux États-Unis, des restaurants qui font appel à des robots commencent à ouvrir leurs portes. Mais en 2016, peu d'innovations du genre sont protégées par un brevet. Voilà pourquoi Gunnar Grass ne tarde pas à fonder YPC Technologies pour Your Personal Chef et embauche une équipe d'ingénieurs. La jeune compagnie déménage à la maison Notman à Montréal, où loge plusieurs entreprises technologiques en démarrage. À l'été 2017, un prototype fonctionnel, doté d'un bras robotisé industriel à 6 axes, réussit à concocter une purée de pommes de terre et un filet mignon, mais surtout un risotto au safran. Ce dernier mets nécessitait 10 ingrédients solides, liquides et en poudre, et 6 étapes de préparation. Un nouvel échelon est atteint en juillet 2018, après un passage au sein des accélérateurs montréalais Centec à l'École de technologie supérieure et Thunder Fuel, le robot mitonne 5 plats en même temps, dont un poulet masala pas piqué des verres. Au-delà de ses ambitions d'affaires, Gunnar Grass assure que cette aventure lui apporte surtout beaucoup de plaisir. Que mon entreprise réussisse ou échoue, j'ai pas de doute que dans 30 ans, il y aura des robots cuisiniers et que les restaurants fonctionneront différemment. Lorsque je me souviendrai d'avoir été un pionnier dans le secteur, ce sera cool. Alors, qui veut du risotto à la sauce techno?
Ouais, avec un peu de poulet masala.
Oui! Alors, des technos qui étonnent et détonnent. Québec Science, novembre 2018.
Merci.
Alors, continuons dans la même veine, étant donné que c'est quelqu'un qui a innové toutes ces belles... ce projet futur. Moi, je vais vous parler de comment conserver notre cerveau en santé. Alors, justement, pour innover. Existe-t-il des trucs simples pour améliorer la performance de notre cerveau, lui assurer une cure de jouvence? Certainement. En voici quelques-uns. Les chercheurs sont tous unanimes sur un sujet. Faire de l'activité physique est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à vos neurones. Pourquoi? Parce que ça favorise la circulation sanguine, les connexions entre les neurones, ça fait augmenter aussi le glucose et l'oxygène nécessaires au cerveau, puis ça élimine les toxines. Voilà pourquoi les sportifs obtiennent tellement de merveilleux résultats de tests mémoire à long terme. Un sommeil. Le sommeil du juste pour un cerveau performant. Un manque de sommeil peut entraîner des effets secondaires comme baisse de concentration, perte de mémoire, diminution de raisonnement, détérioration de la motricité, même des sauts d'humeur. On le sait, c'est nécessaire, le sommeil est essentiel pour le corps humain. Durant ce repos, le sommeil, donc le cerveau consolide des apprentissages de la journée, la mémoire et les souvenirs s'ancrent donc plus profondément. Quoi qu'il en soit, c'est la sieste de l'après-midi qui demeure la meilleure façon de donner un répit à votre cerveau. Il ne faut pas plus de 30 minutes pour que cette pause soit efficace. Et un autre très bon conseil, fuyez donc le stress chronique. L'hypothalamus de notre cerveau envoie un signal aux glandes surrénales qui sécrètent de l'adrénaline. Notre pouce accélère, notre pression artérielle monte. Comment vous sortir de cette situation? Votre cerveau libère aussi du cortisol à petite dose, c'est bénéfique. Car elle stimule les capacités à résoudre des problèmes. L'effet se gâche si elle est sécrétée à long terme.
surtout si on vit du stress de façon permanente. Nos conseils, offrir toute la stabilité familiale, c'est essentiel à l'apprentissage des tout-petits. Retrouver le contrôle sur votre vie. Mettez tout en place pour favoriser une conciliation famille-travail. Faites de l'exercice, du sport. Et répétez deux choses, deux types de mémoire. Nous avons deux mémoires, donc mémoire à court terme et mémoire à long terme. La première nous permet de retenir les nouvelles informations de façon temporaire. Mais c'est la mémoire à long terme qui emmagasine les nouvelles informations. Répétez l'information pour vous en souvenir. Reproduisez l'environnement dans lequel vous avez appris pour la première fois l'information. Tiens, c'est une bonne façon de faire. Élaborez les images mentales et donnez un sens à l'information. L'apprentissage est favorisé dans un milieu où tous les sens sont sollicités, et particulièrement l'odorat. Le pouvoir évocateur des souvenirs est multiplié par les odeurs. Il est prouvé que vous retenez davantage l'information si du texte est associé aussi à une image en lien avec le texte. Si une odeur est de la partie, alors vous multipliez vos chances de retenir cette nouvelle information. La musique, et pas la moindre, est reconnue pour développer le langage, la mémoire, les aptitudes sensorimotrices. On lui prête aussi des vertus au niveau des compétences sociales. Ce phénomène s'explique par la libération de trois substances dans le cerveau. La dopamine, le cortisol et l'oxytocine. La dopamine, c'est reconnue pour déclencher les sensations de plaisir. Le cortisol, elle se libère lorsqu'on écoute de la musique et fait diminuer notre stress. Et l'oxytocine, cette hormone stimule le sentiment d'appartenance et de confiance à un groupe. C'est elle qui nous fait dire « l'union fait la force et nous sommes bien ensemble ». C'était les conseils du Dr. John G. Medina, paru en juin 2018. Et imaginez, c'est une publication de l'assurance SSQ. Alors, fort intéressant, de John G. Medina.
Encore mes souvenirs qui s'égarent en otage entre deux gars, ma destinée écartelée par ma dualité. Sous un éternel ciel blanc, mes rêves bercés de Saint-Laurent, je reviendrai au printemps quand fondent la neige et les tourments. Que les bourgeons se déjeunent, que les érables se déchaînent, j'embrasserai enfin l'été et son souffle débridé. Crachée morte ou vivante, rompue et ivre, je m'exilerai loin des échos déchirés. Je suis un oiseau migrateur. peu au sud, un peu au nord. Il me manque toujours quelque part de vieux morceaux abandonnés sous l'autre ciel où je suis né.
C'était Les Fous de Bassan par Emily Clipper.
Merci beaucoup, Maurice. Ai-je oublié de vous présenter Maurice, qui est à la régie, notre fidèle compagnon, sans quoi notre émission ne tiendrait pas la route. Bon matin, Maurice. Alors voilà, moi, de mon côté, je vais vous faire une courte nouvelle. Je me suis amusé à trouver ça. Je vais vous dire, c'est une revue, c'est un volet santé auquel je suis abonné, c'est l'édition Ouest-France. Savez-vous dans quel pays vit-on le plus longtemps en bonne santé, puisqu'on parle de santé depuis tantôt? Dans leur dernier rapport sur la compétitivité des pays, le Forum économique mondial dévoile l'espérance de vie en bonne santé selon les pays. Un âge fixé en croisant les données sur les maladies, l'invalidité et la mortalité. Voici le classement. Alors, je vais partir du plus bas au plus haut. En Israël, on vit 71 ans. En Islande, ensuite par ordre de croissant, en Islande, en Norvège, en Australie, en France, en Italie et en Suisse, c'est presque 72 ans. En Espagne, un peu près de 73 ans. Et au Japon, c'est 73 ans et demi. À Singapour, on est à 74 ans. La ville de Hong Kong est hors classement et je vous explique pourquoi. Le rapport n'indique pas l'espérance de vie en bonne santé de Hong Kong, mais l'an dernier, ses habitants avaient la plus longue espérance de vie au monde, 84,3 années. Alors voilà, c'était juste une très courte brève. Dans quel pays vit-on le plus longtemps, et ce, en bonne santé? Et on continue, on poursuit avec Francine.
Toujours l'eau à la bouche. Alors, je vous parle du Labo à la mer. C'est un projet de recherche qui unit des entreprises et des chercheurs qui travaillent main dans la main en ce qui concerne le homard. Et tout le monde y gagne. C'est Martine Le Tarte qui nous en parle dans Québec Science de septembre 2018. Aux îles de la Madeleine, les pêcheurs savent que la saison du homard dure 9 semaines. Mais la date exacte de la mise à l'eau des casiers au début du mois de mai dépend de plusieurs facteurs, comme la présence de glace. À la demande de l'industrie, des chercheurs de Mérinov, qui est un centre collégial de transfert de technologies affilié au cégep de la Gaspésie et des Îles, tentent de créer un outil capable de cibler la meilleure fenêtre de pêche. « Nous faisons des sorties avant saison en mer pour recueillir des données », explique Nicolas Toupin, chercheur industriel chez Mérinov, qui est tombé amoureux des îles dès qu'il y a mis les pieds en 2007, après avoir quitté la France, pour réaliser un doctorat en océanographie biologique à l'Université du Québec à Rimouski. Alors que le réchauffement de l'eau fait sortir le homard de sa léthargie hivernale, les chercheurs suivent de près l'évolution de la température de la mer. Ils étudient aussi le taux de protéines dans le crustacé et le développement des œufs. Ce projet de recherche est une première dans l'industrie de la pêche commerciale au Québec. Ce qui est intéressant, c'est que l'industrie n'a pas attendu une crise avant d'agir. Le homard va très bien aux îles, contrairement à la côte est américaine, où la population de crustacés a migré vers le nord en raison du réchauffement climatique. Mais il peut toujours surgir des problèmes. L'apport de nouvelles connaissances aide à prendre des décisions éclairées pour bien gérer et protéger la ressource. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que ça rejoint beaucoup d'intérêts et en même temps, ça continue à nous faire manger de ce merveilleux crustacé.
Ah, écoute, là, ce matin, là, les risottos, le homard, les cocktails, c'est fameux.
Ben, on prépare notre dîner-souper du vendredi.
Peut-être, oui. Restez avec nous, nous poursuivons immédiatement après la pause. Thank you. Eh bien, nous revoilà après cette courte pause et Hélène Bédard au micro, Francine Forget avec moi et toujours Maurice Bolduc à la régie. Je vais vous amener avec moi pour vous parler des facteurs en France. Au début de l'émission, je vous ai dit, qu'est-ce que le facteur fait en France? Eh bien, le facteur s'occupe des vieux. Eh bien oui, Jean-Christophe Laurence, pardon, une collaboration avec la presse, et il a écrit cet article en octobre 2018, ce mois-ci. Alors, nous sommes à Rivin. La porte n'est pas fermée à clé. Après avoir cogné 3 petits coups, Aurore entre dans l'appartement en criant « Coucou ». Jacqueline l'attend dans le salon, bien assise dans son fauteuil. C'est aujourd'hui, mercredi, jour de la visite hebdomadaire. Jacqueline Allard, 73 ans, a un problème d'infection à la peau. Aurore regarde le bobo et lui demande si ça va mieux. Ce que ferait d'emblée n'importe quel médecin dans une consultation à domicile. Sauf que là, Aurore n'est pas médecin, elle est factrice. Il y a plus d'un an maintenant que la Poste française offre le service qui s'appelle « Veiller sur mes parents ». Pour la somme de 20 euros par mois, le facteur peut désormais rendre visite aux personnes âgées qui se trouvent sur son parcours à raison d'une fois par semaine. Loin de se contenter de livrer le courrier, celui-ci tient désormais compagnie au client en prenant de ses nouvelles, en lui faisant un brin de conversation. Quelques questions de base sont inscrites sur sa fiche, mais bien souvent, la jasette déborde sur les enfants, la politique, la vie en général. La visite dure 15 minutes, des fois un petit peu plus. Quand l'affaire est conclue, le facteur envoie un texto à la famille pour lui faire appart. Dans certains cas, il peut aussi apporter les ordonnances de son client à la pharmacie, poster son courrier et même aller faire une course au coin de la rue pour ceux qui ont des problèmes de mobilité. Non négligeable, le service inclut aussi un téléavertisseur qui permet au client de demander de l'aide en cas de problème. Résidente de Révin, petite ville à population vieillissante, Jacqueline Allard a été l'une des premières à faire appel à ce service et elle ne le regrette pas. Diabétique, porteuse d'un stimulateur cardiaque, elle ne se sentait pas en sécurité toute seule à la maison, même si l'un de ses enfants vit dans la région. Elle a donc commandé le service et elle dit « Au moins on sait que quelqu'un va passer. C'est rassurant pour moi, mais aussi pour mes enfants. » Depuis ce temps, Aurore vient la voir une fois par semaine pour faire un brin de causette et tout se passe bien. « J'aime ce travail, dit-elle. Il y a un facteur humain. Je serai contente, moi, d'avoir quelqu'un plus tard pour m'offrir ce service. » Avant de remonter sur son vélo jaune. Mais ce ne sont pas tous les facteurs qui ont le même enthousiasme. À la Poste française, on ne s'en cache pas. Ce nouveau service s'inscrit dans une stratégie de diversification qui inclut aussi la livraison de légumes à domicile, l'examen pour le permis de conduire et bientôt le portage de repas à domicile. Il faut savoir qu'à cause de l'Internet, le courrier distribué en France a diminué de moitié entre 2008 et 2018, donc sur 10 ans. Une baisse de revenus qui force aujourd'hui la Poste à se redéfinir. Quelle belle idée! C'est cette nécessité d'adaptation combinée aux besoins d'une France vieillissante qui a mené à la création de « Veiller sur mes parents ». Il y a 5 000 le nombre approximatif de personnes âgées qui auraient actuellement recours au service à Paris et en province. 5 000, c'est moins que l'objectif fixé initialement par la Poste, mais c'est que le service n'est pas encore entré tout à fait dans nos mœurs. Ce que l'entreprise tentera de corriger en faisant notamment sa promotion par des pubs à la télé. Chose certaine, l'initiative n'est pas passée inaperçue. Outre les médias européens qui ont abordé ce nouveau sujet un peu inusité, les postes de plusieurs pays ont aussi manifesté leur intérêt, notamment en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Allemagne et même au Japon, où vous allez, où on a fait un programme semblable. Alors, est-ce qu'un jour on verra ce programme au Canada? C'est à suivre. C'était donc un court texte nouvelle de Jean-Christophe Laurence. En France, c'était une publication dans la presse octobre 2018. Ah, sur ces belles notes, ça m'emporte vers Francine.
Mais vous savez, ces belles notes, c'est une belle conclusion au bel article que vous venez de lire. C'est vraiment incroyable, hein, de récupérer, mais oui. dans le bon sens du terme.
Oui. Oui, il y a une baisse de...
Oui,
il
y a une... extraordinaire.
Et tout ça tourne avec un bon vin, oui. Et de la sympathie, puis... Tout le monde est heureux là-dedans. Tout le monde y gagne. Moi, j'appelle ça des solutions gagnantes.
Oui, c'est une idée simple, oui. Simplement exploitée, oui. Mais qui est riche en résultats. C'est incroyable.
C'est pas celles-là qui sont le plus fonctionnent le plus, les solutions simples.
J'espère qu'il y en a beaucoup qui ont lu cet article-là.
Je vais le relire dans une autre émission.
Oui, faites-le. Écoutez-moi, là, j'arrive avec quelque chose de complètement différent. Je l'ai annoncé en première partie. Est-ce que vous avez lu Harry Potter, vous?
À ma courte honte, non.
Bon, alors, donc, mais quand même, là, c'est sûr qu'il y a plusieurs de nos auditeurs qui connaissent bien Harry Potter.
Sûrement.
Et sa cape d'invisibilité qui lui a permis de sortir de situations embarrassantes à de nombreuses reprises. Alors, il y aurait au Québec une cape d'invisibilité qui a été inventée. Alors, je vous en fais part, c'est Philippe Mercure qui nous rapporte ce sujet dans la presse plus du 7 octobre dernier. Non, elle ne fonctionne pas encore aussi bien que celle de Harry Potter. Mais des chercheurs québécois ont mis au point une cape d'invisibilité qui a déjà permis de rendre un objet complètement invisible aux yeux de détecteurs optiques. Prochaine étape, refaire l'expérience dans les conditions de tous les jours afin de tromper l'œil humain. De Harry Potter à John Jones, qui est un super-héros de bande dessinée, on ne compte plus les personnages de fiction qui ont entretenu le rêve de l'invisibilité. Or, dans le secret de leur laboratoire, il se trouve que des chercheurs travaillent réellement à cette quête. Entre eux et dans leurs articles scientifiques, ils parlent même de cape d'invisibilité, exactement comme dans Harry Potter. C'est vraiment le terme scientifique qui est utilisé depuis une quinzaine d'années, précise Osé Azana, expert en photonique ultra-rapide au Centre Énergie, Matériaux et Communications de l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS. Un objet est invisible pour une raison simple. Il interagit avec la lumière. Une pomme verte, par exemple, réfléchit le vert et absorbe les autres couleurs. L'objet imprime sa signature sur l'onde lumineuse, résume le professeur Osé Azana. Jusqu'à maintenant, les recherches sur l'invisibilité ont surtout porté sur les matériaux. Comment diable faire ça? Les chercheurs ont décidé de tirer avantage d'un fait. Pour chaque objet, on peut trouver des fréquences qui n'interagissent pas avec lui. Prenez par exemple des lunettes au vert rose. Ces verts retiennent toutes les couleurs sauf le rose qui les traversent sans interagir avec eux. Pour la lumière rose, les verts n'existent pas. Ils sont invisibles. Le concept est plus facile à comprendre pour un objet transparent, mais il s'applique aussi aux objets opaques. Les chercheurs ont compris que le fait que les objets sont invisibles pour certaines couleurs était la porte d'entrée pour réaliser la véritable invisibilité. Notre idée est de prendre la lumière initiale, puis d'en redistribuer les couleurs avec notre appareil d'invisibilité afin de l'amener complètement dans les fréquences qui n'interfère pas avec l'objet, explique Osé Azana. C'est comme si on transformait la lumière en fantôme. Après avoir jeté les bases théoriques de leur méthode d'invisibilité, les chercheurs l'ont testé. Ceux qui imaginent Harry Potter vêtant une cape pour quitter Poudlard incognito, alors Poudlard, c'est le lieu où Harry Potter va à l'école, là. Incognito seront peut-être déçus, mais il faut entendre l'enthousiasme de Osé Azana pour comprendre qu'il y a une réelle avancée scientifique. Les chercheurs ont utilisé un signal laser infrarouge comme ceux utilisés pour les communications par fibres optiques, puis ont modifié sa fréquence pour lui faire traverser un filtre optique. L'opération inverse a ensuite été effectuée, si bien que le signal laser capté derrière l'objet était exactement le même que celui qui avait été initialement envoyé. Quand on a vu l'onde passer à travers l'objet, un objet qui déforme très fortement la lumière, c'est comme s'il n'était pas là. Le professeur éclate de rire. C'était fou. On a appelé tout le monde, s'exclame Osé Azana. L'expérience réalisée par l'équipe de l'INRS laisse entrevoir des applications pratiques. Rendre un signal invisible dans un réseau de fibres optiques pourrait par exemple augmenter la sécurité de nos communications. Mais on veut aller beaucoup plus loin, dit Osé Azana. Les chercheurs veulent maintenant faire disparaître un véritable objet, comme une pomme, dans des conditions réelles. et pas seulement lorsqu'on le regarde dans une direction précise, mais sous tous les angles. Alors voilà les travaux qui peuvent paraître un peu loufoques, mais qui sont loin de l'être, justement parce que ça pourrait servir en sécurité informatique. Les travaux donc du professeur Azana, rapportés dans la presse plus par Philippe Mercure le 7 octobre dernier.
Fascinant, Francis.
Oui, c'est fascinant, fascinant. Effectivement.
Estas una bomba, bomba. Estas una bomba, bomba. Estas una bomba, bomba. Estas una bomba, 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 bomba. Ella es una tentada a todo lo feo. Quizás tiene defectos, pero yo no los veo. Su lenguaje corporal yo lo leo. Ella tiene el arsenal para el bombardeo. Deseo que baile como cobra, menea, hipnotizando la flauta. Haram, como mueve la cadera, la preferida del harem del califa. Dice:
tu madre debe ser terrorista porque tú eres una bomba, una bomba. Tu madre debe ser terrorista porque tú eres una bomba, una bomba. Tu padre debe ser terrorista porque tú eres una bomba, una bomba. Tu madre debe ser terrorista porque tú eres una bomba. De montaña guerrillera, como sacude el pecho, racata metralleta. Ella la deshace y la carga. La AK-47 escupe balas, rafalas, más chica apuntalas. Aprieta el gatillo cuando exhalas. Peleas, las buenas y las malas. Y canta ese coro como María Calas. Tu padre debe ser terrorista porque tú eres una bomba, una bomba. Tu madre debe ser terrorista porque tú eres una bomba. Una bomba, tu padre debe ser terrorista porque tú eres una bomba, una bomba. Tu madre debe ser terrorista porque tú eres una bomba, una bomba. Ay, 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 habibi, no te quites tu velo, ay, 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 mami. Ay, 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 habibi.
Las fiebre como dengue en el merengue tengue.
Ay, 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 habibi, no te quites tu velo, ay, 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 mami. Ay, 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 habibi.
Las fiebre como dengue, ojalá no desmaye.
Lista y especialista, traficante y contrabandista. Ella prende el alma y asesina. Hasta la victoria siempre su santa doctrina. Entrenada con los explosivos. Dale dinamita, fuego de artificio. Me gusta tu mirada misteriosa. Que tú eres una gino, una diosa.
¡Ja! Tu madre debe ser terrorista porque tú eres una bomba, una bomba. Tu madre debe ser terrorista porque tú eres una bomba, una bomba. Tu padre debe ser terrorista porque tú eres una bomba, una bomba. Tu madre debe ser terrorista porque tú eres una bomba, una bomba.
Estás una bomba, bomba. Estás una
bomba, bomba.
Estás una
bomba, bomba.
Estás una
bomba, bomba.
Estás una
bomba. Incendiaria, explosión.
On entendait Bugat et Reis Una Bomba.
Merci Maurice. Alors voilà, nous sommes de retour après cette belle pause musicale. Hélène Bédard au micro. Alors moi, je vais vous parler de ce qui s'en vient, ou peut-être qu'il y en a déjà qui en souffrent. Le rhume. Alors je vais vous parler de remèdes efficaces contre le rhume. Enfin, on va essayer qu'il soit efficace. On va essayer surtout de l'éviter. Mais, ah, vous voilà terrassé par un rhume. Vous avez l'impression qu'un train vous a passé sur le corps. Voici peut-être quelques petites suggestions qui ont fait leur preuve, des fois, pour rendre votre quotidien un petit peu moins misérable. Reposez-vous donc. Quand un rhume se pointe le bout du nez, c'est le signe que votre système immunitaire est à plat. Inutile de continuer au même rythme. Votre corps vous suggère de ralentir le tempo et de vous reposer. En général, le rhume disparaît au bout d'une semaine. Profitez donc de l'occasion pour que votre système immunitaire redevienne votre meilleur allié. Et aussi, buvez, buvez, buvez. La croyance populaire a vu que le bouillon de poulet soit un excellent casse-rhume ou casse-grippe. S'il réconforte et nous amène tout droit à l'enfance, le bouillon de poulet n'est pas le seul à avoir fait ses preuves pour vaincre le rhume. En fait, ce sont tous les liquides qui font du bien quand vous êtes enrhumé. Ils nous décongestionnent, en rendant plus liquide toutes les sécrétions qui nous bloquent.
Donc, ça permet d'éliminer plus rapidement les bactéries. Vous pourrez aromatiser votre eau chaude selon votre goût avec miel citron, gingembre, cannelle, ail, huile essentielle de menthe poivrée, eucalyptus, camphre, thé ou tisane. Buvez donc régulièrement au cours de la journée. À noter, quand je dis buvez, buvez, essayez d'éviter l'alcool. Ça ne vous fera pas guérir plus vite dans ce cas-là.
Profitez. Ah non! Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la machine à cocktail?
On la fait patienter tranquillement dans l'entrée. Là, elle. Profitez donc des bienfaits de l'eau salée. Pour décongestionner le nez et les sinus, il n'y a rien de mieux qu'un mélange d'eau et de sel. Fort simple. Vous pouvez ensuite utiliser une poire nasale ou un compte-goutte pour essayer de vous dégager les voies respiratoires ou sinusales. Mal à la gorge? Gargarisez-vous plusieurs fois, encore une fois, avec solution saline, dont les proportions, c'est à peu près une tasse d'eau, une cuillerée de sel. Bon. C'est un antiseptique, ça empêche la prolifération des bactéries qui irritent la gorge. Et un environnement humide, va vous aider à dégager vos voies respiratoires et vous respirez mieux. Donc, un humidificateur peut maintenir le taux d'humidité de votre maison à 50 % l'été, 30 % l'hiver. Prenez des douches ou des bains chauds. Ça, c'est vraiment là, fantastique. Ça aide. Là. Ça fait vraiment du bien. Puis, est-ce que les médicaments contre le rhume ou les sirops en vente libre aident à guérir plus rapidement? Ben, c'est surtout qu'ils aident à soulager les symptômes. Mais en cas de doute, évidemment, je vous demande de consulter votre professionnel de la santé, votre pharmacien. Et comment éviter de transmettre votre rhume? C'est fort simple. Lavez-vous les mains souvent, 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 avant qu'ils ne se répandent. Toussez et éternuez dans le creux de votre coude, dans ce mouchoir. Lavez-vous les mains ensuite. Évitez de vous toucher nez, yeux et bouche. Nettoyez votre environnement régulièrement avec une eau savonneuse. Alors voilà, c'était à l'aube de ce qui nous menace tous à l'automne. C'est la transmission de ces bactéries qui nous envahit et qui cause le rhume ou la grippe. Alors c'était un petit bulletin conseil, toujours de... J'ai trouvé ça amusant dans la revue SSQ, Assurance SSQ. Et c'était pour l'automne 2018.
Ah, je n'ai plus tôt, là.
Je me suis amusé à parler. Excusez-moi. Je suis désolé, nous étions revenus en onde. Alors voilà, Francine, je te laisse la parole.
Merci, Hélène. Alors, je vais vous parler d'une jeune entreprise de Sherbrooke qui relève le défi de produire de l'eau potable à partir des vagues de la mer. Alors, l'article s'intitule « La mer à boire ». L'eau qui se fracasse sur les rivages fascine Dragon Tutier lors d'un voyage en Corse en 2012. Il se pose alors une question. Si l'énergie des vagues permet de produire de l'électricité et que cette dernière est parfois utilisée pour dessaler l'eau de mer, pourquoi ne pas se servir directement de la houle pour obtenir de l'eau potable? De retour au Québec, il mobilise d'autres étudiants autour de cette idée dans le cadre d'un projet au baccalauréat en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. L'équipe teste un prototype aux Îles-de-la-Madeleine. Ce n'était pas aussi concluant qu'on le souhaitait, mais on croyait toujours au potentiel de l'appareil, raconte l'ingénieur. Il fonde ensuite avec Renaud Lafortune Oneka Technologies, accueilli par l'accélérateur de création d'entreprises technologiques de son université. Le duo, qui jusque-là n'avait pas le pied marin, décide de repenser à zéro un système plus simple et plus économique que le prototype initial, sans huile ni moteur et avec trois fois moins de pièces. En 2016, pour tester sa technologie, la jeune pousse multiplie les allers-retours entre Sherbrooke et Scarborough Beach dans l'État du Maine. Puis, l'année suivante, un centre permanent de test est implanté à Fort Pierce, en Floride. La mer s'y apparente à celle des Caraïbes, où l'entreprise lorgne des marchés. La moitié de la dizaine d'employés d'Oneka Technologies y déménage pour peaufiner un prototype installé à 3 km du rivage. Si quelque chose est inadéquat, la mer va vous le dire, assure Dragon Tutier. À force de réglage, la structure de l'unité est renforcée. Elle résiste à des vagues de 3,5 mètres et produit chaque jour 10 000 litres d'eau potable. En décembre 2017, les deux cofondateurs l'ont poussé aux limites de ses capacités dans le simulateur de houle qu'ils appellent Marinet 2 de l'École centrale de Nantes. Les données amassées là-bas leur permettent désormais de modéliser les opérations sur ordinateur de façon à prédire la production d'eau potable et la résistance selon le régime des vagues d'un endroit donné. La modélisation permet également de mieux adapter la machine aux conditions de la mer en évaluant l'effet de modification de la masse, la géométrie ou la grosseur de certaines pièces. L'invention pourrait éventuellement combler les besoins des collectivités côtières isolées, voire de gens sinistrés à la suite d'ouragans. Avec un système tout en un, indépendant de tout carburant, un mécanicien automobile serait surqualifié pour faire la maintenance de notre appareil, déclare Renaud Lafortune. De quoi anticiper une nouvelle vague dans la production d'eau potable? Alors cet article, c'est pris dans le dossier d'Étienne Plamondon-Aimont, des technologies qui étonnent et détonnent, Québec Science, novembre 2018.
C'est ta dernière chance. Chante, oui, chante. Tu peux partir quand tu veux. Et tu peux dormir où tu veux. Rêver d'une fille, prendre la Bastille.
Votre service, Michel Fugain, chante comme si tu devais mourir.
Eh bien, nous voilà de retour. J'ai une petite nouvelle brève que j'ai recueillie dans la revue Virage, c'est une de mes revues chouchou. C'est par Alexandre Chagnon, pharmacien. C'est paru en septembre 2018. Pour en finir avec les crampes dans les jambes. N'est-ce pas désagréable de se faire réveiller en pleine nuit par une crampe musculaire? Situation pourtant vécue à répétition par environ un adulte sur deux. La solution, se tourner peut-être vers des méthodes non médicamenteuses. Le pharmacien dit ceci. Les crampes dans les pieds ou les jambes peuvent être liées à un débalancement des électrolytes dans le corps, ou du magnésium, calcium, potassium, ou à un état de déshydratation.
est donc important de vous assurer de bien manger et surtout de bien vous hydrater. Il est aussi recommandé de faire des exercices d'étirement juste quelques fois par jour pour lorsque les crampes deviennent fréquentes. Et ne pas oublier que certains médicaments, diurétiques, anti-inflammatoires ou autres, peuvent contribuer à de tels débalancements. Discutez avec votre médecin ou votre pharmacien afin de valider si une prise de sang s'avérait nécessaire pour dissiper ces problématiques et faire de la lumière sur vos symptômes. Alors, s'étirer, s'hydrater, peut-être ajuster la médication, tout ceci, c'est dans le but de pour en finir avec les crampes dans les jambes. Une autre petite nouvelle, et Francine nous amène.
C'est tellement sérieux et important. Les vaches clonées, hein, au cinéma, là, il y a souvent des clones, ont-elles exactement les mêmes tâches que les vraies vaches? Alors, c'est des questions aussi importantes qui sont traitées dans Science et Vie, été 2018. Non. Si le cinéma nous abreuve d'images de clones strictement identiques, la réalité est tout autre. Les élevages de bovins conçus par clonage en témoignent. Aucun veau ne porte les mêmes tâches. Deux clones en auront certes le même nombre, mais leur forme et leur emplacement différeront. La couleur, la proportion des tâches sont déterminées, explique Mme Hélène Jamès, qui est directrice de recherche à l'INRA, mais leur forme et leur répartition n'obéissent pas aux règles strictes de la génétique. Les embryons n'ont pas tout à fait le même matériel génétique. Un clone porte l'ADN prélevé dans le noyau des cellules de l'animal original, mais aussi de l'ADN maternel, entre guillemets, issu de la cellule œuf dans laquelle l'ADN original a été inséré. Alors, c'est triste, mais c'est ça. Alors, c'est dans Science et Vie, été 2018.
J'ai déjà vu des textes plus tristes que ça, je m'excuse. C'est vraiment amusant, ce texte-là.
Bien bon. Oui, c'est ça. Il y a des choses amusantes du côté scientifique. On n'est pas toujours super sérieux, ouais. Même si, dans le fond, c'est quand même sérieux. Ça nous aide à comprendre certaines choses. Hein?
Il faut le vulgariser de façon amusante, sinon les gens se font aussi désintéresser. Alors, écoutez, voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Bien malheureusement, on avait beaucoup de plaisir à faire cette émission. Je vous demande et je vous invite à être avec nous vendredi prochain. Je vais souhaiter un bon voyage à ma collaboratrice qui s'en va au loin.
Oui, alors je ne serai pas avec vous. Je reviens le 16 novembre. Je vais m'ennuyer un peu.
Au revoir et à la semaine prochaine.